Land, Laurence Alois,
Nicolas Benita.
Musique du monde sur RFI.
C'était une visite chez les agités du 33 Tours que nous vous convions aujourd'hui avec Francis Dordogne qui a publié un livre sur les passionnés du vinyle, Les disquaires, une histoire. Un tel livre, rappelle Laurent Chalumeau qui a écrit la préface, ne sera jamais écrit sur le MP3 ou les plateformes de streaming. Francis Dordogne a consacré sa vie à raconter la musique et les musiciens dans Best et les Un Rock. Il était temps de parler des disquaires et de leurs clients, toute une gamme pétillante d'individus allant du snobinard au prédicateur arbitre des élégances. Francis Dordogne est notre invité et voici sa programmation. Bonsoir. Jupiter et Okwe sur RFI dans les musiques du monde, c'est un groupe et un titre télé Jaï choisi par Francis Dordogne. Première question, est-ce que vous êtes déjà rendu à Kinshasa ?
Oui, je me suis rendu à Kinshasa il y a 3 ans ou 4 ans, je ne me souviens plus exactement, lors d'un reportage, en l'occurrence sur Jupiter. Donc voilà, je l'ai vu là-bas, je suis resté une semaine dans son quartier de Lemba et j'ai vu donc la progression de sa carrière et le fait qu'il devienne un artiste local, aujourd'hui quelqu'un qui parcourt le monde, qui fait des tournées un peu partout. Donc voilà, c'est un plaisir de voir cet artiste confiné un peu dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, arriver à sortir et à faire quelque chose qui, à mon avis, d'ailleurs, est un peu le symbole de ce qui se passe en Afrique. Un phénomène musical, justement, porté par tous ces artistes qui, aujourd'hui, ont la possibilité de voyager, de rencontrer d'autres artistes. Là, en l'occurrence, il fait un featuring d'un rappeur brésilien. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé aux États-Unis à une certaine période quand il y a eu une sorte de mélange avec toutes ces traditions locales, le country, le bluegrass, le gospel, le blues, le rock, enfin tout ça. Et ce qui a donné au final ce qu'on appelle aujourd'hui l'Americana. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, c'est un peu le même phénomène qui se passe. Quelque chose qu'on pourrait appeler l'Africana, un mélange de funk, de musique, en l'occurrence Jupiter, lui, de l'ethnie Mongo, et avec tous ces sons qui traversent un peu. Alors c'est un phénomène qui sans doute remonte beaucoup plus loin, mais aujourd'hui il y en a une manifestation, à mon avis, beaucoup plus puissante.
Alors expliquez-moi comment Jupiter se retrouve dans votre playlist, parce qu'on vous invite, parce que vous venez de sortir un livre extrêmement bien documenté et écrit au cordeau, comme vous savez le faire, qui s'appelle Disquaire, une histoire, la passion du vinyle. Vous racontez l'histoire du 33 tours. Quel est le lien entre Jupiter et le 33 tours pour vous ?
Je ne sais pas s'il y en a, parce que en l'occurrence, je pense que Jupiter a commencé sa carrière à un moment où le disque vinyle, le 33 tours, n'était pas véritablement un support en circulation, ni au Congo, ni ailleurs d'ailleurs, parce que moi qui est allé un peu partout en Afrique, j'ai rarement acheté des... Il m'est arrivé d'acheter un vinyle, mais vraiment tout à fait par hasard. En l'occurrence, c'était à la gare de Bamako, un disque du Rail Band, parce que c'était stocké dans un hangar, et on m'a fait... C'est un des membres du Rail Band qui me l'a vendu et qui m'a fait un bon d'achat, parce que c'est une institution là-bas, le Rail Band, et c'est même nationalisé. Donc voilà, c'est une des rares occasions que j'ai pu ramener un vinyle de Kinshasa. J'ai absolument rien ramené. On était déjà passé à l'époque au MP3, donc ça s'échangeait sur des portables comme ça. Moi, j'ai beaucoup acheté de cassettes en Afrique de l'Ouest notamment, mais du vinyle, je n'en ai jamais vu. Mais ça existait, notamment, je crois, au Togo, au Bénin, je crois qu'il y a eu, il y a comme ça des hangars qui accueillaient. Mais bon, voilà, c'est une technologie qui concerne effectivement surtout le continent européen ou les États-Unis ou voilà l'Asie, l'Extrême-Orient, mais assez peu l'Afrique.
Alors, dans la préface qui est signée Laurent Chalumeau, qui est un journaliste musical très non seulement coté, mais comme vous, qui avez un sens aigu de la plume. Et
romancier aussi. Hein,
romancier, et l'art de raconter. Il dit, vous ne verrez jamais un bouquin qui parlera du MP3 avec autant de passion que l'on peut parler du vinyle. L'histoire du vinyle, c'est particulier. C'est vraiment, le terme passion est très très bien choisi. Rappelez-nous qui sont quand même les artistes qui ont démarré leur carrière en étant vendeurs dans une boutique de disques.
Alors, il y en a quelques-uns qui figurent d'ailleurs dans le livre. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'interview de quelques-uns de ces artistes, notamment Lenny Kaye, qui est un guitariste américain de New York, qui lui était vendeur. Il a rencontré finalement son destin à changer. Le jour où il y a une jeune poétesse new-yorkaise du nom de Patti Smith est rentrée dans sa boutique et a demandé des disques de doo-wop, etc. La connexion s'est faite et à partir de là, ils ont monté un groupe et aujourd'hui, ils font voilà, une carrière qui a près de 50 ans maintenant. Et sinon, dans le bouquin, il y a effectivement une évocation de la carrière des Beatles qui a finalement doit beaucoup à un magasin qui s'appelait Northern Names.
La famille Epstein.
Oui, par Brian Epstein, qui est devenu leur manager et qui, lui, était effectivement s'occuper du rayon disque dans cette boutique qui, à l'origine,
d'électroménager.
Qui était une boutique d'électroménager et avant était une boutique de meubles. Donc voilà, c'est un peu ça, les balbutiements de la carrière des Beatles et lié effectivement à un lieu, à une boutique de disques. C'est le cas d'Elton John qui, lui, a été vendeur aussi dans le quartier Soho à Londres. Mais il y a plein d'exemples. Il y a énormément de...
David Bowie. Avant qu'il s'appelle David Bowie.
Ah oui, il s'appelait David Jones, et lui, ben voilà, il essayait de... Voilà, il a senti, il avait une nécessité, c'était à la fois d'être proche de la musique, de son élément, c'était son élément déjà, et il a commencé effectivement dans une petite boutique de Brixton, à vendre des disques, etc. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais enfin, voilà, c'est mon livre aussi étaye d'anecdotes comme ça, d'histoires, de petites historiettes qui racontent le lien entre certains artistes. Il y a Étienne Dao, évidemment, qui est aussi...
Grand collectionneur et amateur de musique.
Et qui lui aussi a débuté comme disquaire à Rennes. Enfin, voilà, c'est... Le bouquin n'est pas uniquement constitué de ces éléments, mais ça fait partie des... Voilà, ça donne une perspective de l'importance que ça a eu pour pas mal de carrières.
Voilà. She speaks like silence, without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, yet she's true like ice, like fire. People carry roses and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. Dangles, madams light the candles in ceremonies of the horsemen. Even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks, she does not bother. She knows too much to argue or to judge. The bridge and the midnight trembles. The country doctor rambles. The banker's niece to see perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night blows rainy. My love, she's like some raven at my window with a broken wing.
Chrissy Hynde avec le titre Love Mine Up Zero, No Limit. Chrissy Hynde fait partie de votre panthéon.
Alors oui, enfin forcément, puisque voilà, moi j'ai un peu suivi sa carrière depuis avec les Pretenders à la fin des années 70, je l'ai rencontré à Londres, etc., etc. Elle figure aussi, d'ailleurs, il y en a un passage. Enfin, elle est dans le bouquin également, puisqu'elle a fréquenté une des boutiques mythiques de Paris qui s'appelle l'Open Market, et donc elle a des anecdotes très croustillantes où elle raconte un peu ses années parisiennes. Il se trouve qu'effectivement là, il y a une actualité pour elle puisqu'elle a sorti un album qui est une forme d'hommage à Bob Dylan. Un répertoire intégralement consacré aux chansons de Dylan. Et alors j'ai choisi celle-là parce que c'est aussi un peu en lien avec mon histoire personnelle, dans la mesure où c'est mon premier album de Bob Dylan que j'ai acheté dans une boutique à Paris, chez un disquaire qui s'appelait Gibert, à l'époque était en l'occurrence à Strasbourg-Saint-Denis. Et donc l'un des premiers disques que j'ai acheté, c'était Bring It All Back Home, sur laquelle figurait cette chanson d'amour même magnifique, une espèce d'évocation assez mystique de l'amour, comme Dylan peut le faire, mais il peut faire aussi des évocations plus dures, plus âpre, voilà, plus maussade. Là, en l'occurrence, c'est lumineux. Et donc, voilà, ça fait partie de un peu mes racines. Hein. Bob Dylan, Chrissy Hynde, voilà, c'est dans une. Il y a une forme de logique. C'est, encore une fois, hein, moi, les disques ont été pour moi une manière de me construire. C'est à travers aussi des albums, des chansons, voilà, que j'ai réussi à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne renie rien. Voilà.
Donc le premier album, le premier 33 tours que vous avez acheté, c'était Bob Dylan?
Non, c'était les Beatles, le double album blanc des Beatles que j'ai acheté à Lagny-sur-Marne, parce qu'en l'occurrence, à l'époque, j'avais presque 14 ans. J'aidais ma mère sur les marchés, qui était vendeuse de... Enfin, elle vendait des chaussures sur le marché de Lagny. Et donc, je l'aidais à déballer, à remballer les chaussures, etc. Donc, elle me donnait un peu d'argent de poche. Et la première chose que je faisais, je descendais près de la Marne. Il y avait un petit magasin d'électroménager où il y avait un petit bac avec quelques disques. C'était en 68. Donc, l'année où est sorti l'album blanc, et pour moi, ça a été, voilà, j'ai ouvert ce truc, et comme on ouvre la boîte de Pandore, toutes les musiques sont sorties de là, parce que c'est un disque absolument incroyable, avec plein de choses, plein de sons, plein de courants, enfin, c'est d'une richesse invraisemblable. Et puis, mes oreilles m'ont porté, et d'ailleurs, elles me portent encore, enfin, je veux dire, mes oreilles m'ont emmené au bout du monde... Ça a été un peu mon guide, j'ai pas de réflexion particulière à énoncer, mais voilà, je suis attiré, mes oreilles me servent d'aimant, voilà.
Vous avez combien d'albums de 33 tours chez vous ?
Alors, chez moi, je ne sais pas, c'est pas énorme. Il y a des collections beaucoup plus importantes, mais je ne sais pas, j'en ai c'est entre 6 et 8 000. C'est pas énorme.
Est-ce qu'il y a un joyau parmi ces 6 ou 8 000 ?
Il y en a plusieurs, des trucs que j'ai dû ramener de voyage. Voilà, un en particulier, je ne pense pas. À la différence de beaucoup de mes confrères, surtout confrères, parce que c'est une passion quand même relativement masculine, je ne suis pas un collectionneur. Je ne collectionne pas les disques. J'ai ce dont j'ai envie. Et après, je suis un chineur. J'aime bien aller dans les... Surtout aujourd'hui, où le disque a... Voilà, avec le retour du vinyle, la difficulté de trouver de la matière première. Hein. Aujourd'hui, le vinyle en lui-même est devenu une denrée rare. Donc, du coup, les maisons de disques ont eu tendance à vouloir augmenter les prix, ce qui aujourd'hui, un disque vinyle, ça se négocie en magasin. C'est entre 35, 40, 50 euros. Et moi, ce que j'aime, c'est aller dans les petites boutiques et puis trouver des disques d'occasion, puis les ramener chez moi. Il faut que ce soit le disque un peu d'origine, si possible, avec le label d'origine. Et puis, que je n'ai pas payé une fortune, là. Et là, je déguste ça comme on peut déguster un bon vin, un alcool. Voilà, je prends mon temps. Voilà, c'est un plaisir, j'allais dire presque de vieux, mais c'est un plaisir.
Francis Dordor, ça veut dire qu'on ne vous verra jamais dans une convention de disques ?
Alors non. Effectivement, je dois dire que les conventions, c'est quelque chose, je suis toujours abstenu d'y aller. Alors, je suis invité, en l'occurrence, pour la sortie de mon bouquin dans une convention qui va avoir lieu à Auvers-sur-Oise au mois d'octobre, aux alentours du 18, donc je fais un peu de publicité, mais ce sera sans doute c'est la première convention. Parce que pour moi, les conventions, ça signifie...
Collection,
spéculation...
Argent, beaucoup.
Et on négocie des choses à des prix invraisemblables, et ça ne m'intéresse pas. Je trouve que le disque doit rester un disque... Voilà, un objet abordable il y a des gens qui sont dans une espèce d'obsession et qui leur faut absolument tout et surtout telle édition, tel truc. Je suis pas vraiment dans cette lignée.
Donc vous avez toujours une platine disque chez vous?
J'ai la même depuis 1973. Parce que j'ai été disquaire moi-même à un moment dans un lieu qui s'appelait... c'était un drugstore, en l'occurrence, dans l'espèce de shopping mall à l'américaine qu'il y avait en banlieue parisienne. Le premier, je crois que ça a été Vélizy. Et puis après, à Rony, dans ma banlieue, la banlieue Est, il y a Rony 2 qui s'est ouvert. Donc, c'est un shopping mall à l'américaine. Il y avait un drugstore. Et là, pendant un été, j'ai postulé et j'ai obtenu le job de disquaire. Donc, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. C'était l'année du bac.
Que vous avez réussi, bien sûr.
Oui, sans mention, mais je l'ai eu, évidemment. Et j'ai acheté, avec mon premier salaire, je me suis acheté ma première chaîne IFI avec une platine Torrent, ce que j'ai toujours.
fait fort quand il fait froid dehors.
Balaké Sissoko et Camille avec le titre Cora. Balaké Sissoko, Mali, Cora, France. Cet extrait du tout dernier album de Balaké qui s'intitule Djourou. Il invitait quelques voix francophones, Oxmo Puccino, Pierce Faccini, Salif Keïta, pour ce nouvel album. Encore une ouverture vers le monde. Comment s'inscrit ce choix de Balaké Sissoko à l'éclairage de votre nouveau livre, Disquaire, une histoire, la passion du vinyle, Francis Dordor?
Il ne s'éclaire pas à la lumière de cet ouvrage. Non, c'est un choix personnel.
Du plaisir.
Oui, pur plaisir, pure réminiscence aussi, parce que moi j'ai découvert l'instrument de la kora lors de mon premier voyage au Mali. Alors ça remonte à 25 ou 30 ans, enfin bon voilà, c'était et évidemment je suis tombé sous le charme, et j'ai encore une fois je ne suis allé que dans les endroits où mes oreilles m'emmenaient, et je suis allé souvent au Mali, qui est un pays absolument une merveille, notamment quand on est mélomane, quand on s'intéresse à la musique, parce que c'est un berceau musical invraisemblable, d'une richesse incroyable. Pour ce qui concerne la kora et la rencontre de Balaké Sissoko, donc, qui vient d'une une grande famille de griots très ancienne, cousin d'ailleurs de Toumani Diabaté, hein. Ils ont enregistré ensemble, ils ont fait plein de choses ensemble.
New Ancient Strings.
Oui, notamment, qui était en fait une forme d'extension d'un album qu'avaient fait leurs pères respectifs, Sidiki et Djeli Madi Sissoko. Donc là, la rencontre avec Camille me plaît beaucoup, ne serait-ce que par la dimension presque mythologique à laquelle je m'accroche. C'est-à-dire que, bon, la kora, et ça c'est une histoire que m'a racontée, je ne sais plus si c'est Balaké ou Toumani, mais j'aimais bien l'histoire de ce général à l'époque de Sundiata. Donc là, on est au 12e, 13e siècle.
Sundiata Keïta, le premier empereur.
Oui, Sundiata, le fondateur de l'Empire du Mandé. Donc voilà, qui, tombant amoureux d'une femme éblouissante, va la poursuivre de ses ardeurs. Et elle, évidemment, féminité, pudeur, va le fuir et va se réfugier dans une grotte, dans une région qui s'appelle, je crois, la montagne de Kabou, qui doit être du côté de la Guinée-Bissau. Et donc, le général arrive et il a ce geste incroyable. Il va lancer un filet de pêche dans la grotte pour ramener la femme convoitée. Et en fait, il ramène une kora, la première kora. C'est ça l'histoire. Et donc, là, avec cette rencontre avec Camille, me parle beaucoup de ce point de vue-là. Me fait résonner quelque chose en moi de cette histoire.
Donc, vous pensez que Balaké a chopé Camille?
Je ne sais pas. Non, mais je ne veux pas. On est dans l'ordre de l'allégorie, de la pure poésie. Il faut rester là.
Francis Dordor, votre nouveau livre s'appelle Disquaire, une histoire, la passion du vinyle. Alors, le vinyle, le 33 tours. Est devenu un objet. C'était un objet courant au XXe siècle. On avait des disquaires favoris, des disquaires qui ont été des universités pour beaucoup d'entre nous, dont vous. Il y a eu le premier accro, ça a été probablement les graveurs, quand des boîtes ont... ont inventé le graveur. Donc, on a pu copier de la musique sans passer par les droits d'auteur. Et puis, alors après, forcément, le streaming.
Oui, on est parti.
Il y a la chute. 90, les années 90.
Déjà le milieu des années 80 où le CD arrive avec cette espèce de volonté de la part des producteurs de disques, hein, les grandes maisons de disques, les majors, de nettoyer, de faire disparaître le vinyle à toute force, c'est-à-dire véritablement de supprimer les pressages, d'enlever les présentoirs d'imposer le CD avec évidemment cet argument d'un son meilleur, d'une qualité sonore et puis surtout le format. Enfin voilà. Et donc il y a eu toute une espèce d'attirance pour cet objet, ce format du CD, du disque compact, qui coûtait beaucoup plus cher. Et donc, le vinyle a été la première victime de cette opération, qui est aussi une sorte de manipulation, parce qu'en l'occurrence, ceux qui ont lancé le CD sur le marché étaient ceux qui fabriquaient les platines. Donc, il y a eu une transformation au niveau de l'industrie musicale. Et puis, étonnamment, au milieu des années... à partir des années 2005, entre 2005 et 2010, il y a eu une forme de retour qui est assez improbable, une espèce d'attirance. Je crois que là, à ce moment-là, le streaming était devenu tellement courant, le téléchargement gratuit, etc. Les gens ont voulu retrouver une espèce de réalité, de pouvoir avoir un objet. Et il se trouve qu'effectivement, la pochette 33 tours, avec tout ce qu'elle peut charrier comme image, comme symbolique, comme lecture, hein, il y a des notes de pochette, etc., est revenue un peu à la mode. À la faveur de ce renouveau, de ce regain, il y a eu une opération qui s'appelle le Disqueur Day, qui a lieu cette année. Il a été fait en deux fois, mais les autres années, en temps normal, c'est le deuxième samedi d'avril. Et le Disqueur Day a été porté en France par un monsieur qui s'appelle David Godvey, qui à l'époque travaillait dans un truc qui s'appelait le Calif, qui était lié au CNM, au Centre National de la Musique, qui a permis aussi, grâce à l'appui du gouvernement, de financer le lancement de disquaires. C'est-à-dire qu'ils ont payé une partie du loyer des disquaires qui se lançaient, sur dossier évidemment, etc. Et ça a permis effectivement de retisser un petit peu un réseau de disquaires indépendants en France. Et beaucoup ont tenu, hein. Il y en a qui ont disparu. Je pense que la pandémie n'a évidemment pas arrangé les choses, mais ça a été cette espèce de miracle un peu dû à juste au plaisir d'avoir cet objet. C'est un peu ce produit qui est un peu autre qu'un produit, quoi, qui est une espèce de charisme particulier.
Le Disqueur Day est né en 2007, mais c'est les Américains qui l'ont...
C'est le Record Store Day à l'origine, effectivement, et en l'occurrence, David Godvey, lui, a repris l'idée et l'a adapté en France, etc., et a porté le projet, et il le porte encore.
Et c'est vrai que des boutiques de disques de 33 tours sont nées après cette création du Disqueur Day.
Ce Disqueur Day, et puis surtout le retour du vinyle, où voilà, des usines de pressage se sont mis à de nouveau presser. Pratiquement aujourd'hui, tous les artistes veulent du vinyle. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, en termes de technologie, on n'a jamais vu ça, un truc disparaître, un format disparaître et renaître de ses cendres. C'est totalement improbable. Et ça, je ne sais pas, c'est peut-être lié aussi à un désir de retour à certaines valeurs. Alors là, on est peut-être dans une vision peut-être écolo, je ne sais pas, retrouver la bicyclette, par exemple. Il y a plein de choses aujourd'hui qui renaissent un peu de l'ordre. La bicyclette, c'était là, pendant des années, on a été sous l'ère de la voiture absolue, et aujourd'hui, on retrouve un peu le plaisir de pédaler. Donc le vinyle, c'est un peu ça, ça procède un peu du même esprit, je pense.
Un valero ratón y alegraba Alvarito.
Voir, écouter le Buena Vista Social Club et mourir. Vous avez une histoire sur le titre Candela nous raconter, Francis Dordor?
Oui, alors d'abord, je voudrais dire que là, alors c'est une version live, effectivement, d'un des grands titres du Buena Vista. Je ne sais pas s'il est tiré du film de Wim Wenders, qui raconte l'histoire du Buena Vista. Et puis, à titre personnel, oui, parce que pour moi, c'est sans doute un des plus grands souvenirs de reportage que j'ai fait dans ma vie. Clairement, donc en 97, je débarque à La Havane et j'ai un fixeur, comme souvent, bon voilà, ça m'arrive dans des endroits que je ne connais pas.
Un fixeur, c'est quelqu'un qui vous aide sur place, qui est en général des journalistes.
Dans le milieu journalistique, effectivement, c'est un fixeur. Celui-là, c'était David Sanchez, donc il y avait une petite maison là dans le Vedado, dans le cœur de La Havane, etc. Et je lui dis, voilà, j'ai écouté un disque avant de partir. En l'occurrence, le disque venait de sortir, il s'appelait Buena Vista Social Club. Et j'aimerais rencontrer certains des chanteurs. Là, je connais, j'étais pas forcément très éduqué, très renseigné sur l'histoire de tous ces gens-là. et ni sur la musique cubaine, sur le son et toutes les traditions, cha-cha-cha et autres. Donc j'avais une notion assez vague, etc. Et donc il a appelé certaines de ces personnes, etc. Et un matin, je vois arriver un taxi et descendre du taxi un vieux monsieur avec les cheveux blancs, mais courbé à l'équerre avec une, voilà. Et en l'occurrence, c'était Ruben González, le pianiste, suivi de Ibrahim Ferrer,
le chanteur.
Donc
que Benny Moré trouvait mauvais.
Oui.
Grand chanteur cubain disant lui le boléro jamais.
Oui, alors c'était voilà, bah, heureusement qu'il y a eu cette espèce de miracle qui s'est produit avec Ry Cooder au studio Egrem, etc. Mais sans doute ces gens-là n'auraient jamais pu réémerger, ressurgir, etc. Donc je leur ai payé le taxi et puis après je les ai emmenés à la Casa de Amistad, qui était une sorte de petit restaurant de quartier. On servait quoi généralement, c'était une omelette avec des patates ou pas, mais enfin bref, voilà, ils ont mangé, enfin voilà, c'était des gens extrêmement humbles. Ibrahim cirait les chaussures pour agrémenter sa petite retraite, enfin c'était quelque chose de touchant, et ils étaient émerveillés qu'un journaliste français puisse venir les interviewer, faire tout ce trajet, etc. J'en ai rencontré d'autres, j'ai rencontré Compa, Tata Wines, le grand percussionniste, enfin bon bref, je me suis immergé dans ce monde-là, et puis surtout il y a une forme de justice ou quelque chose de l'ordre du miracle. Et pour moi, la justice de la musique, c'est que 2-3 ans après, alors j'ai passé une soirée, j'ai passé tout un dimanche chez Ibrahim, dans son petit appartement, avec son réfrigérateur. Je me souviens, il avait un réfrigérateur bleu qui devait dater de 1951, etc. Et j'ai dansé avec son épouse, on fumait des puros, c'est-à-dire les gros cigares, les Coiba, etc. Il y avait 4 générations dans la maison, c'était un esprit totalement massif. Bref, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Et une espèce d'allégresse, et 3 ans plus tard... Effectivement, Ibrahim avait fait carrière, etc. Il avait joué au Japon, il avait joué au Carnegie Hall, etc. Enfin, le succès de Buena Vista avait permis de relancer sa carrière. Et il m'a invité à prendre la crémaillère dans sa nouvelle maison. Et là, c'était un autre monde. Il y avait un écran plat qui devait faire 4 fois, enfin, qui occupait tout un mur. Et puis bon, et d'une cuisine suréquipée, etc. Bref, c'était ça. C'était de partir de ce petit monsieur, ce petit cireur de chaussures, du trottoir du Vedado, et arriver effectivement à cette espèce de et là c'était un plaisir, un bonheur absolu de voir que, et il était rayonnant. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il est décédé quelques années plus tard, mais comme Compa et comme tous ces gens, hein, Ruben, etc. Mais ça leur a donné ce disque là, le Buena Vista, ça leur a permis effectivement d'une espèce de dernier acte magique
et un confort de vie. On va terminer cet entretien avec Natalia M. King. Ce sera votre dernier choix avec le titre Chosen. Je rappelle quand même que vous êtes venu, Francis Dordor, nous raconter la vie de la musique et aussi la passion du vinyle. C'est l'objet de votre nouveau livre, Disquaire, une histoire, avec une préface de Laurent Chalumeau. Natalia M. King, alors l'album n'est pas encore sorti, mais vous avez pas une passion, une forme de... pas d'amitié non plus. Vous l'aimez bien?
Ah, je l'aime plus que bien, ouais. Non, je l'adore.
Natalia, vous l'adorez.
Encore une fois, Natalia, je l'ai vue à ses tout débuts. J'ai suivi, en l'occurrence, tous ces artistes. J'étais pratiquement... ça a été, encore une fois, hein, je ne suis porté que par là où je vais ou là où mes oreilles me portent. Et en l'occurrence, effectivement, Natalia, je l'ai rencontrée pratiquement à peu près à cette époque-là, à la fin des années 90, début des années 2000. Elle venait de sortir du métro, puisque elle chantait dans le métro parisien, après avoir une vie d'aventure incroyable. Elle est née à New York, enfin dans le quartier de Brooklyn. Sa mère d'origine dominicaine, santériste, enfin bon, il y a toute une vie. Et elle est partie, elle a quitté le foyer familial assez tôt, et elle a vécu une vie d'aventurière, de routarde. Elle a traversé les États-Unis en stop, en bus Greyhound, elle a travaillé comme pizzaiolo ou pizzaiola, elle a vidangé des moteurs dans des garages, elle a écaillé et vidé du poisson sur un chalut au large de l'Alaska. Enfin, elle a une vie invraisemblable. Et quand elle est revenue, elle chantait, elle avait quelques chansons dans le métro parisien, et un producteur l'a repérée, etc. Lui a fait enregistrer 2 albums qui étaient des albums complètement, des ovnis complets, un peu dans la lignée un peu Jeff Buckley, c'est-à-dire avec une volonté bien déterminée, bien claire, de ne pas
pas entrer dans la moindre tradition, c'est-à-dire refuser toute tradition musicale et d'essayer d'inventer son propre langage. Et donc voilà, je l'ai connu à cette époque-là. Et puis elle a disparu, on s'est perdu de vue. Et puis là, elle revient donc avec un disque qui, là, par contre, est complètement blues, complètement lié à une tradition. Un jour, elle a vu le film, un autre film de Wim Wenders qui s'appelle Soul of a Man, qui raconte l'histoire de grands bluesmen type Skip James, J.B. Le Noir, etc. Elle a eu une sorte de révélation. Et là, elle fait un disque magnifique qui est un peu dans une tradition blues, rock, etc. Et qui est un disque, et avec une chanson en particulier, là, elle porte quelque chose d'assez fort, puisqu'en l'occurrence, elle fait un come-out, ce qui n'est pas courant dans le milieu. Et je trouve que cette chanteuse, avec le courage qu'elle incarne, et puis la beauté artistique, parce qu'elle a une voix extraordinaire, n'a rien perdu de son potentiel vocal. Je dirais même qu'elle l'a élargi en vieillissant. Je trouve que elle me touche énormément et je suis très content de pouvoir être un des premiers à pouvoir présenter son nouveau projet.
Alors pour ceux ou celles qui ne savent pas, un coming out, c'est de rendre public son homosexualité. Est-ce que, je ne sais pas si elle le fera un jour, ça m'a fait sourire dans votre livre. Souvent, on parle d'artistes qui sont devenus artistes mais qui ont commencé disques. Puis il y a des artistes qui ont ouvert un magasin de disques, notamment Shirley Bassey, Bob Marley.
Oui, Shirley Bassey, Bob Marley. Bob Marley, oui, il a comme pratiquement beaucoup. Moi, j'ai connu la Jamaïque est aussi une place pour moi qui a eu énormément d'importance. Là, dans les années 70, on remonte le temps, mais pratiquement tous les artistes que je croisais, je me souviens de Gregory Isaac qui avait son petit... ça s'appelait African Museum, il avait sa petite boutique de disques et il vendait presque parce qu'ils étaient obligés, vu que les producteurs les avaient tendance plutôt à les arnaquer, on peut dire ça comme ça, et ils avaient donc une volonté. Donc généralement, ils produisaient à un certain moment, ils produisaient leurs propres disques et ils les vendaient dans leur propre boutique, etc. Alors généralement, c'était des petites huttes avec quelques disques, etc. Et Bob Marley a fait ça à un moment, ça s'appelait Soul Shack, je sais plus, enfin bref, c'était dans Kingston, dans Downtown Kingston, et il avait sa petite boutique pendant un moment pour ne serait-ce que... Et il produisait ses disques, et Rita, son épouse, quand, une fois que le disque était pressé, elle prenait sa bicyclette, elle chargeait le porte-bagages de sa bicyclette avec les 45 tours qui venaient à peine d'être pressés, etc. Et elle allait distribuer ça dans les autres petites boutiques de Kingston. Donc forcément, il y a ces histoires qui rejaillissent. Alors, je parle pas forcément de cette histoire en particulier, mais j'aurais pu effectivement, et il y aura peut-être un tome 2 de l'histoire des disquaires, parce qu'à chaque fois, il y a des anecdotes, des petites péripéties qui sont amusantes à raconter.
On se quitte avec Natalia M. King, votre choix. Merci Francis Dordogne.
Merci à vous.
À bientôt, je pense.
À bientôt.
First it was a he, mama thought I'd marry him. He had a beard and a big D. That's the way I grind back then. Life is too short and love is too sweet to hurry up and make up your mind. I was a misconnected dot. I was the bottom misread line.
I'm nothing but my soul. Once was part, but now I'm whole. Longer child not to be broken. God Almighty, I have chosen. Don't know nothing but my soul. Once was part, but now I'm whole. Longer child not to be broken. God Almighty, I have chosen.
Hey, 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 hey.
Music du monde sur RFI.
D'Or était l'invité de C'est Musique du Monde pour présenter son nouveau livre Disquaire, une histoire, la passion du vinyle. Les invités Chrissy Hynde, le Buena Vista Social Club, Balaké Sissoko et Camille, Natalia, M. King et Jupiter ont illustré son propos. Toutes les coordonnées de ces artistes sont évidemment sur la page d'accueil de Musique du Monde, sur le musique.rfi.fr. Et bonne lecture.
RFI, la